Il est 7h sur France Culture. Et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Après les bombardements, place à l'offensive terrestre, la bataille pour reprendre Mossoul en Irak des mains des djihadistes de l'État islamique a commencé.
Les négociations sur la Syrie sont, elles, toujours au point mort. Un week-end diplomatique pour rien après deux rencontres au sommet à Lausanne et à Londres.
En France, la manif pour tous a redonné de la voix hier et puis une première, aujourd'hui, l'ouverture d'une salle de shoot à Paris. Réaction partagée des riverains, vous l'entendrez dans ce journal. À 7h13, dans le billet économique, Marie Viennot évoquera les résultats de la lutte contre la pauvreté dans le monde et les limites des chiffres annoncés en ce jour mondial pour l'élimination de la pauvreté.
Et puis la question du jour, la présidentielle se gagnera-t-elle sur Internet? Et le sujet du jour, quel rôle pour la France pendant l'offensive contre Mossoul et après?
Reprendre le bastion du groupe État islamique en Irak. C'est l'objectif des forces internationales engagées dans la bataille de Mossoul, ville autoproclamée du califat. Le premier ministre irakien, Haider al-Abadi, a annoncé cette nuit le début de l'offensive pour reconquérir la deuxième ville du pays capturée en 2014 par les djihadistes. Bonjour Eric Bégala.
Bonjour Catherine.
Est-ce qu'on en sait plus sur les forces en présence et sur la manière dont pourrait se dérouler cette bataille de Mossoul?
Oui, c'est sanglé dans l'uniforme noir des forces antiterroristes irakienne et flanqué de ses généraux, que le premier ministre Haider al-Abadi a annoncé cette nuit à la télévision le début de la bataille pour reprendre Mossoul aux djihadistes. Une bataille qui, a prévenu le chef du gouvernement, ne verrait personne d'autre que les forces armées et la police irakienne pénétrer dans la ville. Manière de dire que les milices chiites ou les peshmerga kurdes ne devront en aucune manière entrer dans ce bastion sunnite. Ça ne veut pas dire qu'ils ne participeront pas à la bataille. Selon un général irakien, cité par l'Associated Press, il y aurait en tout 25 000 hommes déployés pour reprendre la ville. Les djihadistes, de leur côté, disposerait d'une force de 5 à 6 000 hommes pour la défendre. Et en ville même, il resterait aussi un peu plus d'un million de civils qui risquent de se retrouver piégés par des combats lesquels pourraient durer des semaines, voire des mois. Pour le moment, les forces irakiennes sont encore assez loin, prépositionnées sur trois bases d'assaut différentes. D'abord au sud, à 60 km environ de Mossoul et sur la rive occidentale du Tigre, il y a la base de Kayara qui accueille le gros des troupes irakiennes et sur laquelle sont aussi embossés les canons français Kaiser et les lance-roquettes multiples américains HIMARS. Seconde base d'assaut, à l'est de Mossoul, à une trentaine de kilomètres de la ville, il y a le front de Khazir. Là sont positionnés les Peshmerga kurdes et quelques unités de l'armée irakienne. Une poussée vers l'ouest devrait leur permettre de reprendre les villes et villages chrétiens en majorité de la longue plaine de Ninive avant d'arriver aux remparts de Mossoul. Et puis enfin, il y a une troisième base d'assaut à partir d'où lancer la bataille, au nord de l'agglomération, à proximité du barrage de Mossoul. Là sont concentrées également des forces irakiennes et des Peshmerga kurdes. L'offensive sur Mossoul peut donc être engagée sur trois fronts différents. La défense sera compliquée à organiser, mais les djihadistes ont eu plus de 2 ans pour s'y préparer.
Merci beaucoup Eric Bégala. Et sur la bataille de Mossoul, j'ajoute que l'ONU se dit extrêmement préoccupée par la sécurité d'1,5 million de personnes qui pourraient être touchées par les opérations militaires. Des milliers et des milliers de déplacés peut-être dans les jours et dans les semaines à venir. Le HCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, espère pouvoir disposer de 11 camps d'ici la fin de l'année. 11 camps pour accueillir 120 000 personnes. Les autorités irakiennes pensent en accueillir 150 000 autres. Mais certains de ces camps seraient situés dans des zones actuellement contrôlées par le groupe État islamique et devraient donc être construits pendant la bataille de Mossoul. Les djihadistes de Daesh, dont le territoire s'amoindrit, ils ont perdu la ville syrienne de Dabik ce week-end. Une défaite infligée par des rebelles soutenus par la Turquie. Dabik, ville symbolique pour les djihadistes qui pensent, selon une prophétie, que cette localité serait le site d'une bataille où les armées musulmanes finiraient par triompher des armées chrétiennes, des armées assimilées à la coalition internationale, aujourd'hui menée par les États-Unis. Cette défaite du groupe État islamique à Dabik en Syrie intervenait hier alors que les Occidentaux menaçaient le régime de Bachar al-Assad et son allié russe de nouvelles sanctions. Depuis Londres, où étaient réunis des pays soutenant l'opposition syrienne, le secrétaire d'État américain John Kerry a affirmé que des crimes contre l'humanité étaient perpétrés dans les quartiers rebelles d'Alep. Il a prévenu que des mesures supplémentaires étaient envisagées contre le régime et ses soutiens. Mais sur le front diplomatique, pour instaurer un éventuel cessez-le-feu ce week-end n'aura servi à rien. Aucune avancée samedi entre Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, et son homologue américain. Leur première entrevue depuis le début des bombardements à Alep-Est, il y a 3 semaines. Pas d'avancée non plus au terme d'une autre réunion à Londres. La correspondance d'Antoine Gignot.
il n'y a eu aucune avancée. C'est la conclusion sans enthousiasme des représentants européens. Pas de projet de cessez-le-feu, pas de rapprochement entre les Américains et les Russes. La seule véritable proposition du week-end, c'est celle faite par l'émissaire des Nations Unies, évacuer une partie des combattants djihadistes de l'ancien front al-Nosra en leur faisant quitter les quartiers est d'Alep. C'est une possibilité à étudier, répond Jean-Marc Ayrault. Mais pour le ministre français des Affaires étrangères, il faut d'abord que cessent les bombardements.
Il faut qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Il ne faut pas que les Russes, le régime de Bachar el-Assad, les Iraniens s'imaginent que nous allons baisser notre opposition à ce qui est en train de se passer à Alep. Ils sont dans une stratégie qui est une stratégie à la Grozny, celle qui a été pratiquée en Russie pour régler le problème tchétchène. On sait dans quelles conditions ça s'est passé. Et ça passe aujourd'hui en Syrie, et ce n'est pas acceptable.
Pour faire pression sur la Russie, l'Iran et le régime syrien, les représentants européens et le groupe des pays affinitaires comptent désormais sur la sortie, à la fin de la semaine, d'un rapport sur l'usage des armes chimiques. Il pourrait y avoir de nouvelles actions à l'encontre de Bachar el-Assad devant la Cour pénale internationale et la Commission des Nations Unies à Genève.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture. Une élection truquée au bénéfice d'Hillary Clinton, c'est la nouvelle accusation portée hier par Donald Trump aux États-Unis. Le candidat républicain à la présidentielle a pêle-mêle dénoncé l'attitude des médias et exprimé des soupçons sur les déroulements du vote lui-même. On y revient dans le journal de 7h30.
7h06 sur France Culture, la suite du journal Catherine Dutu. Ils ont tenté de raviver la flamme de la manif pour tous. 24 000 manifestants selon la police, près de 10 fois plus selon les organisateurs, ont défilé hier à Paris.
Première manifestation des opposants au mariage homosexuel. Depuis 2 ans, ils espèrent peser sur les candidats à la présidentielle. Les organisateurs continuent de demander l'abrogation de la loi Taubira et ils dénoncent une prétendue théorie du genre, enseignée selon eux à l'école. Exemple avec cette famille de 5 enfants venus de Verneuil-sur-Seine, dans les Yvelines, famille qu'a rencontré Antoine Marette.
À l'école, loin des parents et de la famille, on va apprendre à mélanger tout ce qui peut être fille ou garçon.
La théorie du genre, c'est laisser le choix à l'enfant de...
Choisir ses parents.
Non, pas ses parents.
Non, son environnement.
Non, pas du tout.
Mais si.
Son orientation sexuelle, s'il veut devenir une fille ou un garçon. Ah, moi, je suis complètement contre ce fait de laisser le choix à l'enfant de choisir son sexe, en fait. Je sais que mon petit frère, qui était dans une école pourtant privée catholique, est allé voir un film, donc c'était Hellboy, quelque chose comme ça. Tomboy, voilà. Film d'un petit garçon qui tombe amoureux d'un autre petit garçon, qui décide de devenir une fille.
Non, c'est une fille qui veut devenir un petit garçon, c'est dans l'autre sens.
Voilà, c'est ça, mais pour moi, on n'a pas montré ça à des enfants, quoi.
Tu as vu Tomboy, toi ?
Non.
D'accord. Tant mieux.
Mais il l'a vu ou il l'a pas vu ?
Je sais pas si c'était sa classe, mais je sais que c'était dans son école.
Et tu sais pourquoi tu manifestes, là ?
Pour avoir pas des parents, papa et papa, pour avoir papa et maman.
Et pourquoi est-ce qu'il faut pas que l'enfant, il ait deux papas ou deux mamans ?
Bah, je sais pas. Pour bien être éduqué ?
À force de tout mélanger, de faire comme si tout était pareil, un garçon ne sait plus s'il est vraiment un garçon. Une fille ne sait plus si elle est une fille.
Le mariage, pour moi, c'est quelque chose de sacré. C'est un homme et une femme qui unissent leur union pour fonder une famille, avoir des enfants. Et l'enfant a besoin du papa comme de la maman, parce que le papa n'apporte pas les mêmes choses que la maman n'apporte pas les mêmes choses que le papa. Je suis pas contre les homosexuels, mais je suis contre le fait qu'ils aient accès à l'adoption ou à la GPA, à la PMA. Pour moi, c'est complètement un truc contre nature, quoi.
Laissez les filles être des filles. Laissez les garçons être des garçons.
Propos recueillis par Antoine Marette. Une porte discrète, rue Ambroise-Paré à Paris, à quelques mètres de l'entrée principale de l'hôpital Lariboisière. C'est aujourd'hui couvre la première salle de consommation à moindre risque pour les usagers de drogue en France. Une salle de shoot, comme l'on dit, située donc près de la gare du Nord. Le principe, des toxicomanes majeurs viendront s'y injecter des produits qu'ils apportent eux-mêmes sous la supervision de personnes qualifiées, avec du matériel stérile afin de diminuer les risques sanitaires. Mais les riverains craignent, eux, des troubles du voisinage. C'est le cas de Jean-Charles, 60 ans. Il habite le quartier depuis 25 ans.
Tous les gens qui habitent ici se plaignent, quoi. Ils ne sont pas très contents. Vous avez des gens qui habitent avec les enfants, etc. Donc, alors, bon, très honnêtement, ils ne sont pas très... c'est pas agressif, hein. Mais quand même, c'est sûr que ça donne une image pas terrible. D'un côté, tu as les urgences. D'un côté, tu as la salle de shoot. Et puis, au milieu, tu as des gens qui font des va-et-vient, qui essayent de dealer, qui essayent d'acheter, etc., etc.
Voilà. Ça, c'est pas nouveau dans le quartier, de
non,
toute façon.
Non, c'est pas nouveau. Mais enfin, quand même, il y a une recrudescence. Hein. Moi, je trouve que ça augmente terriblement. Quelque part, c'est... Qu'est-ce qu'on en fait ? On peut pas les laisser crever dans la rue. Néanmoins, c'est vrai que les gens qui habitent autour, ça les ravit pas, quoi.
Un avis que ne partage pas André, lui aussi riverain de cette salle de shoot qui ouvre ses portes à Paris. André est un ancien ambulancier désormais à la retraite.
Moi, je trouve que c'est pas mal. Je pense que c'est, ça régularisera un peu, ça mettra un peu d'ordre, et un peu de, ça ne traînera pas dans la rue, parce que quand on va, mettons, aux toilettes là-bas, les toilettes publiques, les Vespasiennes, c'est vraiment les plus dégueulasses, excusez-moi l'expression, à droite, après le café, il y a des Vespasiennes, les plus dégueulasses de Paris. Et puis il y a toujours des choses jetées dedans et tout. On a du mal à marcher pour faire pipi. Alors vous voyez, parce qu'il y a des choses qui traînaient, quoi, vous voyez. Alors je pense que ça mettra un peu de règlement.
Et vous pensez que les gens vont venir, qui sont dans la consommation, vous qui en avez vu, vous avez vu des comportements,
je pense.
André Riverain de la salle de shoot qui ouvre à Paris, il répondait à Sarah Maquet. La France est ainsi le 9e pays à ouvrir une telle salle dans le monde. Rendez-vous sur franceculture.fr pour découvrir l'évolution de cette pratique, cartographie à l'appui. Elle sème la zizanie pour les uns, elle est irresponsable pour les autres. Les propos de Ségolène Royal sur Notre-Dame-des-Landes dans le journal du dimanche hier font encore réagir. La ministre de l'Environnement a déclaré « il vaut mieux arrêter les frais » face à l'évacuation annoncée pour l'automne du site occupé par les opposants à ce projet controversé d'aéroport. Un épineux dossier, source de bras de fer avec Matignon, évoqué hier par Ségolène Royal lors d'un déplacement à Rome et au Vatican à l'occasion de la canonisation de deux Français. La présidente de la COP21 a remercié le Vatican pour son aide dans le processus d'adoption de l'accord sur le climat et elle est revenue sur Notre-Dame-des-Landes.
C'est une soif de vérité aussi, puis de valeurs que je défends. Ce sont des valeurs universelles qui consistent à dire qu'il est possible de réconcilier le développement économique et la protection de l'environnement. Et qu'il faut toujours préférer les convergences ou l'émergence d'un modèle commun aux affrontements. Et que la protection de l'environnement ne justifie nullement les violences ou la mort d'un militant, comme on a vu à Sivens. Et donc il faut savoir raison garder, qu'il faut faire preuve de discernement et qu'il faut faire en sorte que les citoyens adhèrent aux décisions qui les concernent et que l'on puisse toujours rechercher quel est l'intérêt général et comment on réconcilie développement économique et environnement.
Ségolène Royal au micro de Mathilde Imberti, notre correspondante à Rome. Une série d'entretiens exceptionnels à partir de 20h ce soir dans À Voix Nue sur France Culture. Pour la première fois, Anne Pinjot, la compagne clandestine de François Mitterrand durant 33 ans, s'exprime sur sa vie et sur la correspondance que l'ancien président a entretenue avec elle, des lettres d'amour que lui a adressées François Mitterrand entre 1962 et 1995, publiées chez Gallimard. Série d'entretiens à découvrir donc dans À Voix Nue des 20h ce soir avec l'historien Jean-Noël Jeannet sur France Culture, mais déjà extrait exclusif à découvrir tout à l'heure dans les matins à 7h55. Le temps de ce lundi 17 octobre, couvert et même plus vieux des Ardennes jusqu'en PACA, des averses également dans le Limousin, partout ailleurs des nuages et de timides éclaircies. Au meilleur de la journée, il fera 16 degrés à Clermont-Ferrand, 17 degrés à Paris et Grenoble, 18 à Lorient, 21 à Montauban et 22 degrés à Menton, Guillaume Erner.